Voilà, bonjour à tous. Alors, d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Alors, quand je veux dire d'aller bien, je parle surtout de la paix qu'on peut avoir dans notre cœur. Parce qu'effectivement, on peut traverser tout un tas de situations. Parfois, Alex le disait tout à l'heure, parfois faciles, parfois difficiles. Et malgré tout, même dans les situations faciles, on sait qu'on peut se faire avoir quelque part aussi. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien, voilà. Et j'espère que vous êtes réveillés, on va parcourir la parole de Dieu. Voilà, on va commencer par lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 8. On le lira dans deux versions, versets 8 à 10. Je commence. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur. » Vous qui avez le cœur partagé, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Je vais le lire en version parole vivante, vous ne l'aurez pas à l'écran, mais vous pourrez peut-être comparer comme cela. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra près de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheur et nettoyez vos mains. Hommes indécis, purifiez vos cœurs, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez sur ce que vous avez fait, que votre rire se change en lamentation et votre gaieté en tristesse. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. Amen. Voilà, ce texte est particulier. Il peut paraître dur, surtout si peut-être vous le découvrez pour la première fois ou si vous ne connaissez pas bien la parole de Dieu. Et pour nous qui connaissons bien la parole de Dieu, il peut paraître plutôt contradictoire avec d'autres textes qu'on peut avoir en tête. Et notamment le message suivant qui a été transmis par le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 13. « Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards, et je transformerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai de leur chagrin. Oui, je les réjouirai. » Amen. Oui, nous croyons vraiment que Dieu veut nous sortir du deuil. Mais pourtant, nous avons lu juste avant que Jacques nous dit « Soyez dans le deuil. » Et donc, ça sera le thème de notre message ce matin. Alors, juste quelques définitions. Le deuil, c'est quoi? C'est une douleur. C'est une affliction que l'on éprouve de la mort de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est une affliction? Je ne sais pas si tout le monde pourrait donner la définition. Moi, j'ai dû la chercher, en tout cas. C'est une peine profonde, un abattement à la suite d'un grand revers. Voilà, ce n'est pas forcément lié à la perte d'un être cher. Et ensuite, il y a une expression, je pense que vous connaissez, qu'on utilise, c'est faire son deuil. Faire son deuil d'une chose, et c'est se résigner à en être privé. Voilà, donc... On va continuer dans le message, je voulais juste préciser qu'en fait, le sujet du jour, ce n'est pas de partager sur le deuil qui survient lorsque l'on perd un être cher, mais il s'agit du deuil qui est en relation, du deuil, de la souffrance qui est en relation avec le péché. D'accord ? Voilà, et je profite de l'occasion, parce que je sais que plusieurs, notre pasteur et d'autres dans l'Église, ont subi le deuil récemment, et je profite de l'occasion vraiment de vous bénir, voilà, de la part de Dieu, et aussi, voilà, de vous dire que Dieu vous console encore et continue de vous consoler. Car il est grand, car il nous console. Amen. Alors, nous allons continuer sur une première partie avec deux exemples de deuil dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est vrai que là, c'est vraiment des... Pour le premier, c'est vraiment le deuil, c'est vraiment la perte de personnes, mais vous verrez la projection que l'on peut faire dans notre vie aujourd'hui. Donc c'est dans le livre de Ruth, au chapitre 1er et au 1er verset. Voilà. On va lire les 7 premiers versets. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélech. Sa femme Noémie et ses deux fils, Mahlon et Kilion, excusez-moi, je me suis... Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles filles pour entrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Voilà, je pense que pour la plupart, nous connaissons cette histoire, qui est une belle histoire, le livre de Ruth. Et Noémie est dans un très grand deuil. Je sais, moi, personnellement, je dis souvent que je ne peux pas savoir ce que c'est, déjà parce que je n'ai pas vécu ce type de deuil. Mais elle a perdu non seulement son mari, à la limite, c'était peut-être, entre guillemets, peut-être normal et naturel, peut-être il était très âgé, on n'a pas d'indication, mais elle a perdu aussi tous ses enfants, et qui, normalement, auraient dû mourir après elle. C'est vraiment un drame profond pour elle. Et elle est dans ce pays de Moab. Alors il faut se rappeler que ce pays, ce peuple, c'est l'ennemi du peuple d'Israël, et pour lequel Dieu avait défendu d'avoir des relations avec lui. Et ce pays, c'est celui où Noémie et sa famille étaient venus chercher la vie pour échapper à la famine. Et pourtant, ils ont trouvé la mort. Et ce pays, c'est tout simplement le symbole du péché, c'est le symbole de la désobéissance. Mais, il y a un mais bien sûr, et c'est ce qui est beau dans ce livre aussi, c'est que Noémie apprend que Dieu a béni son peuple, Israël. On ne sait pas comment, c'est pas précisé. Et de ce fait, elle décide de quitter ce lieu de mort pour revenir vers Dieu. Et j'ai envie de dire, voilà, parce que c'est vrai, le récit est assez bref, hein, celui que nous avons lu, hein, il y a plusieurs années qui s'écoulent, plusieurs dizaines d'années, a priori, hein, enfin, au moins 10 et plus. Et c'est vrai que pour Noémie, c'était sûrement pas très facile de partir de là où elle était. Parce que c'était un pays où elle s'était installée, elle devait avoir des connaissances, elle devait avoir fait des amis. Je sais pas, peut-être le lieu où elle s'était installée était beau. Et c'était pas si facile, certainement, de partir, parce qu'elle avait des attaches. Et puis après, il y avait aussi le fait qu'en repartant en Israël, elle devait se dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi quand je vais revenir ? Mais elle s'est résignée à le faire. Et voilà, je voudrais juste faire le rappel avec la définition que j'ai donnée tout à l'heure, faire son deuil, être résignée à être privée de quelque chose. Et elle s'est résignée à le faire, à être privée de tout cela, de ses attaches, de tout ça, etc. De partir de ce pays de Moab. Et donc Noémie arrive donc à Bethléem en Israël, accompagnée de Ruth, sa belle-fille. Donc je passe l'épisode où il y a une des deux qui finalement ne décide pas d'aller avec Noémie. Et nous allons lire la suite. Donc au verset 19, toujours le chapitre 1. Et donc là, c'est des femmes de Juda qui vont parler. Est-ce bien là Noémie ? Donc, sous-entendu, on n'est pas trop sûr, est-ce qu'on la reconnaît bien ? Parce qu'elle avait bien dû changer, bien sûr. Est-ce bien là Noémie ? Demandèrent les femmes. Elle leur répondit, ne m'appelez plus Noémie, ce qui veut dire l'heureuse, appelez-moi Mara, ce qui veut dire l'affligée, celle qui souffre. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongée dans l'affliction ? Si l'Éternel est contre Noémie, c'est qu'elle a péché en fait. C'est qu'elle était à l'opposé quelque part de la volonté de Dieu. Mais on voit que dans ses propos, finalement, elle n'est pas rebelle à Dieu. Et ça, c'est important. On discerne une foi dans son cœur. Elle est en quelque sorte dans le deuil d'avoir désobéi, d'avoir péché. Elle le reconnaît, elle ne se plaint pas de la situation qu'elle a pu vivre. Elle ne se plaint pas d'une situation qui aurait engendré la mort de son mari, de ses fils. Non, simplement elle dit que l'Éternel était opposé à elle, à son projet. Alors on va lire plus loin au chapitre 2, au verset 19, hein, on fait des grands pas ce matin. Sa belle-mère lui demanda, « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui ?» Donc c'est Noémie qui s'adresse à Ruth, qui travaillait pour pouvoir manger. « Dans quel champ as-tu travaillé ? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Alors Ruth raconta à sa belle-mère, chez qui elle avait travaillé, et lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Noémie dit à sa belle-fille, « Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il a été envers ceux qui sont morts. » Puis elle ajouta, « Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. » Amen. Donc Noémie n'est pas rebelle envers Dieu, comme je le disais. Et là, on voit vraiment qu'elle s'attend à ce que Dieu prenne soin d'elle. Elle est vraiment dans cette démarche de foi. Et c'est particulier quand même. Elle exprime même que ceux qui sont morts ont été au bénéfice de la grâce de Dieu. Pas seulement les vivants, avec qui elle est actuellement, mais aussi ceux qui sont morts, c'est-à-dire son mari et ses fils. Et elle ne se plaint pas, finalement, de cela. Et je dis, n'est-ce pas un signe de guérison intérieure ? Oui, il y avait vraiment un processus de consolation qui s'était enclenché dans le cœur de Noémie. On va lire plus loin, au verset 13 du chapitre 4. Là, on arrive à la fin du livre de Ruth. C'est un peu la conclusion. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme lorsqu'il se fut uni à elle. L'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. » Elle vaut mieux pour toi que sept fils. Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, Noémie a eu un fils. Et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Voilà, Noémie est pleinement consolée, je crois. Elle n'aurait jamais pu être consolée si elle était restée au pays de Moab. Elle a vraiment vécu une consolation. Je fabulais un peu tout seul, je me suis dit, et si elle était restée au pays de Moab, que se serait-il passé ? Serait-elle morte, elle aussi, dans ce pays ? Nous ne savons. Mais en tout cas, elle a bien fait d'être affligée de son péché. Elle a bien fait de revenir vers Dieu. Alors je vais juste faire une toute petite parenthèse avant de passer à un autre exemple. Mais vous savez, parce qu'on souvent focalise sur Ruth, sur Naomi dans cette histoire, bien sûr c'est normal, c'est le sujet principal, mais concernant Boaz, suivant les versions, lui il est resté en Israël. Et ce qu'on voit c'est que malgré la famine, il jouit d'une très bonne situation sociale. Et il était de la même famille que Noémie. Et je voudrais juste vous encourager, peut-être si aujourd'hui vous passez par un moment de famine, un moment de désert, ne vous découragez pas. Voilà, restez dans le calme. Restez là où vous êtes. Si Dieu ne vous a pas dit clairement de changer de situation, de tout plaquer et de partir, ou, etc., ne le faites pas. Parce que, voilà, comme Boaz, voilà, restons tranquilles, même si les événements sont contraires, et restons dans la foi auprès de Dieu. Amen. Voilà, donc on a parlé de Noémie, donc de Ruth. On a vu que le fils de Noémie devenait Obed, puis le père d'Isaïe, qui devient le père d'Isaïe, qui devient le père de David, et nous allons parler de David. D'un passage qu'on connaît très bien pour la plupart, et si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. Suite à l'adultère et au meurtre que David a commis, le prophète Nathan vient le voir de la part de Dieu pour lui signifier ce qu'il avait fait, que ce qu'il avait fait avait déplu fortement à Dieu. Vous le savez, voilà. Et voilà ce que répond David à Nathan. Voilà, j'essaie de résumer un petit peu pour qu'on gagne un peu de temps. Donc dans 2 Samuel au chapitre 12 et au verset 13, on va voir la réponse de David, en fait, à ce que Nathan a dit, et qui reproche à David, finalement, d'avoir péché. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car ils se disaient « Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. » Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient. Entre eux, il comprit que l'enfant était mort et leur demanda « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent « Il est mort. » Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite, il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Ses serviteurs le questionnèrent. « Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré. Et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » David leur répondit. « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut d'une vue un fils qu'elle appela Salomon, le pacifique. L'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Aussi celui-ci appela l'enfant Yedidia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Amen. David avait grandement péché. Lorsqu'on réfléchit à ce que David a fait, et c'est quelque chose que j'ai pensé hier, c'est que je ne pense pas qu'il y ait tant d'hommes que ça sur terre qui aient fait quelque chose d'aussi grave. Parce que non seulement il y a l'adultère peut-être peut-être assez commun sur la terre, je dirais, voilà, globalement. Mais au point de tuer l'autre personne, c'est quand même fort. Et pourtant, quand Dieu lui a fait réaliser la grandeur de sa faute, il reconnaît son péché et il se repent. Voilà, la réponse était courte, vous l'avez vu. J'ai péché contre l'Éternel, mais ça voulait tout dire. Ça voulait dire qu'il reconnaissait d'autres rois, d'autres situations dans la Bible. On voit que des rois se raidissent, s'enorgueillissent et se disent « Non, non, je suis pas pécheur, ils veulent pas voilà, s'incliner devant Dieu, finalement. » Mais David l'a fait. Alors, dans un premier temps, il va souffrir de quoi? Il va souffrir de la conséquence de son péché. C'est-à-dire qu'il va souffrir pour son fils, et son fils, c'est la conséquence du péché. Vous comprenez naturellement. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, le fils de cette union, c'est la conséquence du péché. Et au grand étonnement de ses serviteurs, quand son fils meurt, il ne sera pas dans le deuil. Il sera dans l'acceptation. Et en fait, David s'est résigné à abandonner l'idée de voir grandir son fils. Parce qu'il a compris, voilà, aussi la décision de Dieu. Il sait que Dieu est juste. Il sait que si Dieu a prononcé cette sentence, il sait que c'est juste parce qu'il sait le mal qu'il a commis. Il sait ce qu'il a fait auparavant. Et en quelque sorte, si vous voulez, c'est une image, bien sûr, hein, parce que c'était un innocent, cet enfant, bien sûr, il ne méritait pas ça. Mais en quelque sorte, il s'est résigné à ne pas laisser grandir le fruit du péché. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois, donc, il s'est qui s'est préparé à sortir pour aller à la maison de Dieu. Et là, il a été affligé à cause de son péché. Il s'est présenté devant Dieu. Il a été affligé à cause de vraiment de ce qu'il a fait. Pas de la conséquence de son péché, mais par ce qu'il avait fait. Par finalement la noirceur de son cœur, si vous voulez, qu'il avait en lui. Et donc ça, on peut le voir dans le psaume 51. On a la chance, je dirais, d'avoir cette prière. Et c'est bien clairement écrit dans le psaume. C'était après que Nathan soit venu le voir, il a formulé cette prière. Alors, on prendra quelques extraits, versets 3 à 6, le verset 12 et le verset 19. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste. » Quand tu émets ta sentence, vous voyez ce que je disais, il reconnaît que Dieu est juste. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Plus loin, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître à moi un esprit bien disposé. Encore plus loin, verset 19, le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Et voilà, c'est la bonne démarche à avoir, celle de David, celle de Noémie que nous avons vue tout à l'heure. Et comme pour Noémie, on discerne ici la foi de David en un Dieu qui est juste, mais qui est aussi plein de compassion. Ça va de pair, c'est pas en opposition. David sera pardonné, il sera consolé par Dieu, ainsi que Bathsheba, sa femme, nous l'avons lu. Et bien, juste pour préciser qu'il y aura quand même de graves conséquences à ce péché, parce qu'il y a toujours des conséquences au péché, elles sont plus ou moins importantes, les conséquences. Mais il y a toujours des conséquences au péché. Mais ce qui n'empêchait pas David d'être dans la volonté de Dieu après. Voilà, nous arrivons à la deuxième partie du message. C'était les deux exemples que je voulais partager avec vous et sur lesquels nous appuierons pour la suite. Et l'intitulé de la deuxième partie, c'est le cœur du message, c'est « Soyons dans le deuil, souffrons pour quelque chose qui en vaut la peine ». On va lire dans Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, au verset 37. Je pense que vous connaissez aussi, je pense pour la plupart, si vous connaissez la Bible depuis un moment. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? On peut dire les malheurs et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà, je pense que c'est un peu le centre de ce message. C'est tellement important de bien comprendre cela. Nous devons nous plaindre de nos propres péchés et de rien d'autre. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, je donne un petit extrait d'un verset qui est donné au verset 56, si vous voulez noter. Il est dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » Donc, en français courant, le péché, c'est l'arme de la mort. C'est son arme, c'est celle qui permet d'agir et d'infliger le mal. Et donc, si nous traitons à la légère le péché dans nos vies, qu'on le laisse grandir, eh bien, c'est la mort qui se répand. Et la seule manière de l'arrêter, vous le savez, tout à l'heure, on l'a partagé en se remémorant la mort de Jésus, c'est que nous en souffrions, que nous soyons quelque part en deuil, que nous en souffrions sincèrement devant Dieu, au point de mettre notre foi dans l'œuvre toute puissante, de Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour que la mort qui est en nous soit anéantie avec le péché. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'il y a toujours un plaisir procuré par le péché. Vous voyez, à Moab, en fait, j'avais un commentaire sur ma Bible, sur les plaines de Moab où sont allées... Donc Elimelech et Naomi avec leurs enfants. Et c'était des plaines fertiles, c'était des plaines agréables, c'était des plaines où on avait envie d'y aller. Vous savez, pour David aussi, voilà, le plaisir d'avoir une belle femme, et puis voilà, tout ce que ça a pu engendrer. Donc avec le péché, il y a le plaisir. Et nous devons arriver à un point où nous souffrons d'être attirés par ce plaisir, et où nous supplions Dieu de nous délivrer. Noémie devait sortir de Moab. Le fils de David, même si ça paraît dur comme ça, bon, c'est l'Ancien Testament, bien sûr, on n'est pas dans le temps de la grâce, mais le fils de David devait mourir. Donc, si Dieu nous demande d'être dans le deuil, c'est pour nous faire sortir de notre condition, de nous faire sortir du péché. Et ce n'est qu'une étape, bien sûr. Et ce n'est pas en opposition avec les textes où Dieu veut nous sortir du deuil, comme nous l'avons lu au début. Alors on va relire Jérémie, au chapitre 31 et au verset 13. Et nous lirons la suite. « Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse. » Mais là, ce qu'on peut retenir, c'est de se dire que pour que le deuil devienne une allégresse, il faut d'abord qu'il y ait un deuil. Et donc, il faut que nous, on ait cette démarche envers Dieu sincère par rapport à notre péché, quel qu'il soit insignifiant. Ça peut être une pensée d'orgueil, ça peut être qu'on a l'habitude d'avoir, ça peut être plein de choses. Ne voyons pas forcément le péché comme que seulement le meurtre et l'adultère, comme nous avons cité juste avant. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'installer dans nos vies, qui peuvent demeurer. Et on peut demeurer un peu comme dans le pays de Moab, par notre attitude, par notre façon de faire, par des petites choses parfois que l'on néglige. Et en fait, on n'est pas contrit, on n'est pas devant Dieu, prêt à lui dire « Seigneur, pardon, je voudrais en finir avec ça, je voudrais ne plus commettre cela. » Voilà. Donc il faut passer par cette étape de deuil. Donc, et je transformerai leur deuil en allégresse, je les consolerai de leur chagrin. Oui, je les réjouirai, je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasiera des biens que je lui offrirai. L'Éternel le déclare. Voici ce que déclare l'Éternel. Là, ça change. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Retiens-toi de pleurer, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense, l'Éternel le déclare, et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance, l'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. J'ai très bien entendu, voilà, on change de personnage maintenant, j'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, lui aussi gémit, mais qui dit, tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi, afin que je revienne. Car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette. Éclairé sur mes fautes, je me lamente sur moi-même. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le poids de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse et qui n'était guère honorable. Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Mon cœur est en émoi. J'aurai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. Amen. Et là, on a deux réactions. Alors vous voyez, la volonté de Dieu, c'est que, certes, on passe par le deuil, mais c'est le but, c'est la consolation. Mais il y a deux attitudes. Il y a celle de Rachel. Rachel qui ne voulait pas se laisser consoler. Et puis il y a celle d'Éphraïm, qui a finalement la même attitude. Vous avez sûrement remarqué, hein, les similitudes par rapport à ce que nous avons dit sur Noémie et sur David. Cette humiliation, le fait de reconnaître qu'on s'est détourné et que l'Éternel n'est pas favorable à ce que l'on a fait. Et voilà. Et il y a aussi une opposition très claire entre la réaction de David et celle de Rachel. Puisque David a perdu son fils, mais vous voyez, il va se prosterner devant Dieu, dans la maison de Dieu. Mais elle, Rachel, a perdu ses fils, mais elle ne veut pas se laisser consoler. C'est-à-dire, elle sait que Dieu veut la consoler, mais elle ne le veut pas. Et parfois, nous ne voulons pas être consolés. Nous préférons nous enfermer dans nos raisonnements, continuer de souffrir de la conséquence de notre péché. Et c'est cela qu'il ne faut pas. Il faut souffrir pour quelque chose qui en vaut la peine, c'est ce que je disais. Il ne faut pas souffrir à cause de la conséquence de notre péché. Mais il faut souffrir devant Dieu parce que nous sommes pécheurs et parce que nous avons péché. Rappelez-vous les Hébreux dans le désert qui ont murmuré de leurs conditions et qui ont fini par se plaindre, par murmurer contre Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, je t'encourage, ne souffre pas inutilement. Laisse-toi consoler par le Dieu Tout-Puissant. Fais comme Noémie, fais comme David, qui malgré leur grave désobéissance, si vous n'avez pas fait quelque chose comme David, ben vous pouvez être consolé comme lui, à plus forte raison. De toute manière, il n'y a pas de graduation dans le péché, finalement. Même si les conséquences peuvent être plus ou moins graves par rapport à ce qu'on a fait, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais un péché est un péché. Et si tu as besoin, voilà, fais comme David, avance-toi vers lui, sachant qu'il va te consoler, il va te pardonner. Avance-toi sincèrement. Passons du temps à nous plaindre de nos péchés. Mais ne passons pas du temps à nous plaindre de notre situation ou des autres. Parce que parfois on se plaint de la conséquence de nos péchés, ou on se plaint de ce que les autres pêchent. On peut même montrer les autres du doigt en disant qu'ils pêchent et qu'ils font le mal. Mais finalement, ne pas réaliser ce qui est en nous. On ne l'a pas lu. David, quand il reçoit le message de Nathan, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais que... Parce que Nathan parle en parabole, de façon imagée. Et donc, il parle de David de façon imagée. Et lui, il croit qu'il parle de quelqu'un dans son peuple. Et il dit, mais qu'il soit mis à mort. C'est la réaction de David. Et donc, il a commis la même chose. Peut-être personne d'autre a commis ça dans son pays. Et quand il entend ça, il dit, il faut qu'il soit mis à mort. Et il ne voit même pas qu'en fait, il est en train de parler de lui-même. Alors voilà, j'ai envie de dire, est-ce que vous comprenez mieux ce que dit Jacques ? Soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. C'est le but. Le but, c'est qu'il nous relève. J'espère que vous ne sentez pas ce message comme quelque chose de pesant de la part de Dieu, de quelque chose qui, comme si Dieu voulait nous écraser. Non, au contraire. Son but, c'est simplement de nous amener finalement au pied de la croix, contrit, c'est vrai, que ce soit pour un péché grave, parce que parfois, c'est vrai, je vais dire une bêtise, hein, mais on a une altercation avec quelqu'un, on va lui donner une gifle, admettons. Là, c'est sûr, on va s'en vouloir, on va y penser, on va vouloir le régler, ce serait très compliqué comme situation, vous comprenez. Voilà, je ne sais pas si ça vous est arrivé, personnellement, je ne crois pas, mais voilà. Ça vous fait rire. Mais comprenez que parfois, ça peut être juste une pensée qui s'installe en nous. Dans le cadre de notre travail, ça par contre, je pense l'avoir vécu, ou dans d'autres circonstances, une pensée qui s'installe et qui revient, etc. Et cette pensée qu'on ne veut pas, ou une pensée de critique, et qu'on ne veut pas abandonner, qui est là, qui s'installe. Et ce péché, on le néglige quelque part, on le laisse de côté. Et en fait, il faut vraiment qu'on soit peiné, finalement, profondément, affligé de ce comportement qu'on peut avoir dans notre esprit, etc. Et c'est vrai que ces choses-là, ça peut nous arriver jusqu'à la fin de notre vie. Vous savez, c'est vrai que Jésus nous couvre. C'est vrai que nous sommes couverts par le sacrifice de Jésus. Il ne faut pas vivre dans la crainte et dans la peur. Ce n'est pas le sens de ce message. Parce que Dieu nous pardonne, Dieu nous lave. Mais il y a une progression. Vous voyez, David, il n'était pas... À la fois, il avait commis l'horreur, mais en même temps, c'est comme s'il avait oublié un petit peu. Et nous, parfois, on n'est pas conscient de nos péchés. On a besoin que Dieu nous les montre. Et au fur et à mesure, bien sûr, on progresse, on se sanctifie, on progresse, donc on est de plus en plus saint. On ne sera jamais parfait sur cette terre, mais on progresse. En tout cas, il le faut. Hein. Et donc, Dieu va nous montrer un autre péché. Quelque chose, des fois, qui se paraît insignifiant. Ah, mais là, tu vois, tu es un peu orgueilleux. Là, il y a un peu de mépris. Là, si, etc. Et que... Voilà, et à ce moment-là, eh bien, l'accepter, ne pas s'enorgueillir, mais vraiment le recevoir la parole de Dieu et puis se présenter devant Dieu, comme l'a fait David, pour qu'il nous pardonne. Oui, je dirais, il faut passer par cette étape chaque fois que nous prenons conscience d'un péché dans notre vie, aussi insignifiant qu'il paraît, car il pourrait gagner du terrain dans notre cœur. Vous savez, cette fameuse mort qui se répand en nous, parce que le péché, finalement, l'arme de la mort, hein, le répand. Et pour les péchés qui nous collent à la peau, parce que je pense qu'on est tous pareils, on a tous des faiblesses, des péchés dont nous avons du mal à nous débarrasser, eh bien, souffrons sincèrement de ces faiblesses devant notre Seigneur. Peut-être ça prend plus de temps pour certaines choses, mais revenons sans cesse devant notre Seigneur. Souffrons sincèrement de ces faiblesses devant notre Seigneur. Soyons dans le deuil. Soyons réellement affligés. Ne négligeons pas cela. Oui, parce que cela vaut la peine. Car c'est sûr, Dieu va nous relever si nous sommes dans cette situation. Il va nous consoler. Amen. Voilà, je suis à la conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop long. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus, il est venu exactement pour cela, pour ce que je viens de décrire. Il est venu pour nous consoler. Et nous allons lire le programme de la venue de Jésus. Ésaïe, chapitre 61, premier verset, et vous allez voir combien ce qui est écrit là met en lumière tout ce que je viens de décrire. Donc j'ai essayé de décrire voilà, avec les mots qui sont les miens. « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi. » C'est Jésus qui parle, hein. Je le redis. « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur. » Enfin, c'est annoncé, puis après Jésus reprendra ce texte-là. « L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance. » Captif, c'est quoi là ? C'est être captif du péché, en fait. C'est ça la problématique de la mort causée par le péché. Et à ceux qui sont prisonniers du péché ou de toutes sortes de choses, leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Amen. C'est le but de la venue de Jésus. Ce n'est pas de nous écraser, ce n'est pas de nous montrer que nous avons tort, même s'il nous le montre, bien sûr. Vous voyez, David, il a fallu qu'il prenne en pleine figure ce que Nathan lui a dit. Mais Jésus est venu pour nous consoler. Et vous savez, le verset qui va suivre, là, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 4. Tu peux l'afficher, Luana. Et ce verset peut être très mal compris. Pas compris du tout, ou mal compris. Mais ce qu'on vient de dire, c'est vraiment... C'est comme on vient de l'expliquer qu'il faut le comprendre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ça, c'est la version seconde et la version Sommer. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et Dieu ne prend pas un malin plaisir à nous faire pleurer. Non, simplement, c'est qu'il sait que c'est la seule solution pour qu'on puisse obtenir le vrai pardon, pour que l'on puisse être consolé, pour que l'on puisse être délivré de nos péchés. Alors, que j'aille vers Jésus, conscient de mon péché, un peu comme Noémie, a pu le faire en quittant Moab, elle était consciente de ce qu'elle avait fait, elle revenait vers l'Éternel. Ou bien que Jésus vienne en moi pour me révéler ma faute, comme Nathan est venu voir David. Je veux être dans le deuil, dans une profonde tristesse d'avoir offensé Dieu, car je sais que Jésus me consolera. Amen. Voilà, nous pouvons prier, je crois. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce et pour ta parole, Seigneur. Mais surtout, merci Seigneur, parce que en plongeant les regards dans ta parole, nous pouvons vraiment voir ton amour, Seigneur. Nous pouvons vraiment voir ton désir de nous avoir avec toi, ton désir de nous consoler, ton désir que nous ne restions pas dans la misère. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est vrai, tu nous as ouvert le chemin, c'est vrai, Seigneur. Et nous voulons, si Jésus a tout accompli, si tout est fait, Seigneur, il ne nous reste plus qu'à reconnaître nos péchés, il ne nous reste plus qu'à en souffrir quelque part, à vouloir ne plus les avoir en nous pour que tu sois glorifié, pour que tu puisses nous purifier, que tu puisses nous laver, que tu puisses nous amener plus loin, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci vraiment pour ce moment en ta présence, Seigneur. Que ta parole soit gravée dans mon cœur, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Amen.